Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et Virginie Fulpin pour le journal. Bonjour Virginie.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Je suis venue vous dire que rien ne va. François Bayrou organise sa conférence sur les comptes publics ce matin. La pause a été de courte durée. Regain de tension entre la France et l'Algérie. Le régime algérien expulse 12 fonctionnaires français. Et puis la Chine mise sur ses voisins. Xi Jinping veut étendre l'influence de son pays lors de sa tournée en Asie du Sud-Est.
Avant les 40 milliards de François Bayrou, les 20 milliards d'économies de la Cour des comptes pour l'assurance maladie dans l'édito Écho de François Vidal. Enfin, la bataille des droits de douane va nous coûter cher. L'économiste Emmanuel Combes, l'invité de l'économie à 7h15. À la une, Virginie, c'est à 11h ce matin que François Bayrou organise sa conférence sur les comptes publics.
Et les comptes publics ne sont pas bons. Le Premier ministre ne va pas prendre de gants pour nous expliquer la situation financière de la France, histoire de faire accepter ce qui en découlera, les 40 milliards d'économies à faire l'an prochain, Charles Ducrot.
Point d'étape, clarification, le descriptif de Matignon reste léger. Un ministre préfère parler d'état des lieux de nos finances publiques sans donner davantage de détails. Il ne faut s'attendre à aucune annonce. L'objectif, c'est une prise de conscience de ce que coûte le déficit aux Français et ce qu'il va coûter à leurs enfants, poursuit ce membre du gouvernement, aux yeux de qui François Bayrou fait œuvre utile après les années insouciantes de ses prédécesseurs. Mais déjà, le vocabulaire du ministre de l'économie donne une idée de la tonalité de cette séquence. D'une heure et demie en théorie, passer du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive, un état d'urgence budgétaire pour trouver ces 40 milliards d'euros d'économies, tout sera mis sur la table, promet l'entourage de François Bayrou, y compris des efforts demandés aux retraités ou encore aux collectivités locales. Et sans oublier aussi l'effort de défense, le tout sur fond de guerre commerciale d'un côté et de gros enjeux politiques de l'autre. Pour François Bayrou, dont la popularité est au plus bas, est toujours menacée d'une motion de censure.
L'Association des maires de France a décliné l'invitation à cette conférence. Elle dénonce un exercice de communication. 1500 communes françaises n'ont pas d'assurance. Avec le dérèglement climatique, il y a de plus en plus d'inondations notamment. Et les assureurs ne veulent plus couvrir les risques ou alors à des tarifs exorbitants. L'État vient à la rescousse en créant une cellule d'accompagnement des collectivités chapeautée par le médiateur des assurances. Les pires inondations en une décennie justement et l'année la plus chaude de l'histoire. Voilà ce qu'a connu l'Europe en 2024. C'est le rapport annuel de l'Observatoire Copernicus qui le dit. Un tiers du réseau fluvial européen a été inondé l'an dernier. On attend une dizaine de milliers de nouveaux cas cette semaine. L'épidémie de chikungunya continue de faire des ravages à La Réunion. 120 militaires sont arrivés en renfort pour des opérations de démoustication. La nouvelle campagne vaccinale est lancée. Rémi Pfister, les autorités font tout pour freiner l'épidémie.
Toute l'île de La Réunion est touchée car le moustique vecteur de la maladie profite de la saison des pluies et de la chaleur qui perdure pour freiner sa propagation. L'élimination des gîtes larvaires favorables à la prolifération des moustiques est la priorité absolue. La ville de Saint-Denis vient ainsi de lancer une grande opération de nettoyage pour traquer les points d'eau stagnantes et éliminer le plus de déchets possible. Une réaction bienvenue mais trop tardive pour le docteur Samir Nassai, généraliste à l'ouest de l'île.
On n'a pas pensé à démoustiquer rapidement. Il y a cette histoire de vaccination. Donc je ne comprends pas pourquoi avoir débloqué que 40 000 doses sur une population de 900 000. Et la chose la plus scandaleuse, c'est qu'on n'a pas protégé le personnel soignant des villes. Donc le vaccin n'est pas remboursé pour les médecins et pour tous les professionnels de santé. Donc si les professionnels de santé en plus tombent malades, on va droit vers le chaos.
Plus de la moitié des cas graves de chikungunya concernent des patients de 65 ans et plus, un public plus réticent à la vaccination. Depuis 3 jours, seules 2200 personnes ont franchi le pas, mais au vu de la vitesse de propagation du virus, les autorités espèrent un sursaut. 50 000 doses supplémentaires devraient arriver d'ici la fin du mois.
Une fuite d'azote mortelle dans une salle de sport à Paris hier soir. Une fuite qui viendrait des cuves de récupération de cryothérapie de la salle. Une employée de cette salle de sport est décédée. Une cliente est hospitalisée. Son pronostic vital engagé.
À 7h04 sur Radio Classique, l'Algérie défend sa décision d'expulser 12 agents français.
Les autorités algériennes parlent de décision souveraine. Les 12 agents français qui travaillent auprès de l'ambassade de France ou du consulat ont 48 heures pour quitter le territoire. En réponse à l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien. Du jamais vu, l'Algérie fait porter au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau la responsabilité de ce regain de tension. C'est ce qu'explique le journaliste algérien Khaled Raneni, représentant de Reporters sans frontières à Alger.
il y a une volonté d'apaisement, il y a surtout une volonté de marginaliser Bruno Retailleau. Pour Alger, c'est le ministre de l'Intérieur qui veut saboter à tout prix ce rapprochement algéro-français. Bruno Retailleau, il faut le dire, joue avec le feu dans cette relation et ne veut absolument pas d'une normalisation et d'un rapprochement. Je vous rappelle que les 12 agents consulaires qui ont été expulsés dépendent tous du ministère de l'Intérieur. Ce sont des policiers, ce sont des gendarmes, un commissaire, la DGSI et la DGSE. Aucun des 12 expulsés n'appartient à la diplomatie française.
Emmanuel Macron doit décider dans les heures qui viennent de la réponse à apporter à l'Algérie. Le Hamas étudie une nouvelle proposition de trêve d'Israël dans la bande de Gaza, mais l'organisation terroriste estime déjà que cette proposition franchit une ligne rouge puisqu'elle exige le désarmement du Hamas. Donald Trump s'en prend à nouveau à Volodymyr Zelensky. Le président américain laisse entendre que l'Ukraine est co-responsable du conflit avec la Russie, en martelant qu'on ne commence pas une guerre contre quelqu'un 20 fois plus gros que vous. Le président ukrainien répond en rappelant que son pays n'a jamais voulu la guerre et que c'est la Russie qui l'a envahi en février 2022. Ça va faire un gros trou dans le budget. Donald Trump coupe 2 milliards de dollars de subventions pour Harvard, l'université ayant rejeté les exigences de l'administration américaine, notamment la fin des politiques favorisant la diversité au sein de l'université. La Chine, elle cherche des appuis en Asie en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Le président Xi Jinping est au Vietnam avant d'aller au Cambodge et en Malaisie. Et le président chinois veut renforcer la position de son pays dans la région, Eric Koch.
Au Vietnam, Xi Jinping ne débarque pas les mains vides. Il est venu conclure une quarantaine d'accords de coopération dans des secteurs clés comme le ferroviaire, le numérique ou encore l'agriculture. Plus important encore, il est venu prendre le pouls d'un Vietnam toujours sous le coup de droits de douane américains qui pourraient atteindre les 46% à la fin des 90 jours de trêve décrétés par Donald Trump dans sa guerre commerciale mondiale, explique l'économiste Marie-Françoise Renard.
En arrivant au Vietnam, Xi Jinping a rappelé que la Chine était un partenaire stable face à Trump, qui est en train de mettre le monde, on pourrait dire, à feu et à sang, eh bien la Chine est un pays responsable. Et donc, il vaut mieux se tourner vers la Chine que vers les États-Unis et essayer d'établir des zones commerciales plus fiables.
Un discours qu'il réitérera en Malaisie et au Cambodge, qui risque respectivement 24 et 49% de droits de douane. Avant cela, Xi Jinping a également tendu la main à la Corée du Sud et au Japon, deux partenaires essentiels de Pékin, mais aussi alliés de Washington. Ces pays craignent que les 145% de taxes des États-Unis sur les produits chinois ne créent un raz-de-marée de marchandises made in China. Pour les rassurer, Pékin pourrait leur proposer en contrepartie de leur ouvrir davantage son propre marché.
La Légion d'honneur pour les rebâtisseurs de Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron décore une centaine d'artisans aujourd'hui, 6 ans après l'incendie qui avait détruit une partie de la cathédrale. Et puis le PSG n'est plus qu'à une marche du dernier carré de la Ligue des Champions. Les Parisiens jouent à Birmingham ce soir en quart de finale. Retour à l'aller, ils avaient battu Aston Villa 3-1. Il n'y a plus qu'un.
Il n'y a plus qu'un. Un petit pronostic peut-être, Virginie, pour le match de ce soir.
Ils vont se qualifier, les Parisiens, je pense. Allez, un petit match nul ce soir, ça suffit.
Allez, on y croit et on verra demain matin, on fera le point. C'était le journal de Virginie Fulpin, à tout à l'heure 8h. Dans un instant, la soupe à la grimace de la Cour des comptes pour l'assurance maladie dans l'édito écho de François Vidal. Radio Classique 7h07.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Cuisine Ixina présente, la cuisine à 2 990 € avec le plan 3D offert.
Super ce plan, on se projette bien là.
Ouais, je te vois déjà ranger la vaisselle.
Ah, on doit pas avoir le même plan.
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur ixina.fr.
Bonjour, c'est Alain Duo. Boston, New York, la Nouvelle-Écosse. Cet automne, je vous attends avec Radio Classique sur un yacht ponant raffiné pour une croisière de rêve. Avec la grande Shani Di Luca et John Gade au piano, le prodige du violon Luca Faolisi, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, la clarinette star de Pierre Génisson, la trompette feu de Lucienne Renaud-Davary et en option la comédie musicale Chicago au cœur de Broadway.
Réservez dès maintenant votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, Job Fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 7h10, c'est l'heure de l'édito de l'économie avec le journal Les Échos et François Vidal. Bonjour François.
Bonjour Marc.
20 milliards d'euros d'économies, c'est ce que la Cour des comptes propose de réaliser sur les dépenses de l'assurance maladie. Un rapport qui tombe à pic, François.
Oui, on ne pouvait pas rêver meilleur timing. Dimanche, le gouvernement prévenait qu'il faudrait réaliser 40 milliards d'économies l'an prochain pour tenir les objectifs budgétaires. Et ce matin, François Bayrou organise un grand out pour enfoncer le clou. Du coup, les propositions de la Cour des comptes permettent de comprendre quelle réalité se cache derrière ces chiffres un peu abstraits. Et ce qui est rassurant pour tous ceux qui craignent que sérieux budgétaire ne rime avec remise en cause de notre modèle social, c'est qu'il n'en est rien. Alors, réduire les dépenses de santé de 10% environ comme le propose la Cour, ce qui au passage suffirait à peine à combler un déficit de la Sécu estimé à 15 milliards l'an dernier, obligera à faire des choix, voire quelques sacrifices, mais rien de choquant ou d'insupportable.
Parmi les 15 propositions, François, on trouve tout de même la fermeture de certains établissements hospitaliers et le déremboursement de certains actes médicaux.
Oui, des mesures impopulaires qui provoqueront inévitablement une levée de boucliers, mais quand on y réfléchit, est-ce vraiment choquant de revoir notre carte hospitalière si cela permet de mieux soigner les patients. De la même manière, harmoniser les soins prodigués d'un département à l'autre sur le territoire, comme le propose le rapport, relève du bon sens et permettrait accessoirement de dégager près de 3 milliards d'euros d'économies. Ce rapport est une mine d'or pour qui veut mettre un terme à la dérive des dépenses de santé. La question est de savoir si la volonté politique de le faire existe, et pas seulement pour la Sécu, alors que le crédit financier de la France s'épuise. Le gouvernement Bayrou prétend qu'il y est prêt, sans augmenter les impôts. Le temps est venu qu'ils joignent le geste à la parole.
L'édito écho de François Vidal du journal Les Échos. Bonne journée François et à demain.
À demain.
7h12, tout de suite l'essentiel de l'économie sur Radio Classique. Et à la une donc, 40 milliards d'euros d'économies l'an prochain pour atteindre l'objectif de déficit public. Le Premier ministre François Bayrou tient ce matin une conférence sur l'état des finances publiques. L'objectif est de sensibiliser les Français à la pathologie budgétaire. En clair, préparer le terrain pour des annonces potentiellement douloureuses. Le gouvernement souhaite résoudre le problème d'assurance des collectivités locales face à la multiplication des catastrophes naturelles, des cyberattaques ou encore des violences urbaines. De nombreuses communes ne parviennent plus à s'assurer ou alors avec de très fortes hausses de tarifs. Le Premier ministre François Bayrou veut notamment créer un fonds d'indemnisation pour financer les réparations des dégâts causés par les violences urbaines. Quel avenir pour les droits télé du foot français et donc pour les caisses des clubs? La médiation entre la Ligue de football professionnel et les diffuseurs d'Azone prend fin aujourd'hui. Le conflit dure depuis plusieurs mois, victime du piratage. D'Azone n'a convaincu pour l'instant que 500 000 abonnés. La plateforme s'était fixée pour objectif 1,5 million pour la fin de l'année. Dans un instant, l'économiste Emmanuel Combes, invité de Stéphane Pedrazzi, 7h13 sur Radio Classique.
Bonjour, c'est Élodie Fondacci. Que diriez-vous d'une nouvelle histoire pour les vacances? Il était une fois une jeune fille appelée Blanche-Neige qui fuyait une méchante sorcière. Elle trouva refuge dans une minuscule maison habitée par 77 nains.
Découvrez Blanche-Neige et les 77 nains, la nouvelle histoire en musique d'Élodie Fondacci. Un livre de David Ekali à retrouver aux éditions Talents Haut. Disponible pour la première fois en écoute binaurale sur toutes vos plateformes habituelles.
La matinale de Radio Classique
avec Marc Bourreau.
7h13, les voix de l'économie. Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin, est économiste, ancien président de l'autorité de la concurrence.
Bonjour Emmanuel Combes.
Bonjour Stéphane.
Également professeur à la Schema Business School. Bienvenue sur Radio Classique. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid, des annonces fracassantes, puis un moratoire de 90 jours, puis à nouveau des déclarations offensives. Il a encore dit qu'aucun pays ne serait épargné. Pourquoi s'attaquer à tout le monde si l'objectif, qui semble maintenant évident, c'est de s'attaquer à la Chine?
En réalité, il a quand même une obsession constante depuis son premier mandat. C'est en effet, vous l'avez dit Stéphane, la Chine. Le problème, c'est quand il a fait du protectionnisme lors de son premier mandat, ce protectionnisme a été contourné, la Chine passant notamment par des pays tiers, le Vietnam, le Mexique, etc. Donc l'idée étant de mettre des droits de douane sur tous les pays, vous éviterez le contournement indirect. Alors vous me direz Stéphane, mais les Chinois ne sont pas allés en Europe pour exporter vers la Chine. Il y a une seconde obsession qui est le déficit commercial. Et dès lors que vous avez un déficit, ils considèrent que c'est déloyal, et donc dès lors que c'est déloyal, ils mettent des droits de douane. On va y revenir peut-être, ça me semble une lecture un peu simpliste de la réalité. Mais il y a quand même une obsession constante. La Chine sur le plan économique et sur le plan technologique.
Un moratoire de 90 jours a été annoncé la semaine dernière. Vous signez une tribune ce matin dans les colonnes de l'Opinion. 90 jours pour dissuader Donald Trump. De quelle manière?
Alors, pour le dissuader, vous savez, pour négocier, il faut avoir des armes de négociation. On peut tout d'abord mettre en place des droits de douane sur les marchandises. Mais en mettant des droits de douane, pour un économiste, n'oubliez jamais que la première victime d'un droit de douane, c'est celui qui les met en place. La première victime du protectionnisme de Donald Trump, ce sont les États-Unis. Donc si nous faisons la même chose, nous allons nous punir nous-mêmes. Nous avons par contre une autre possibilité. Donald Trump oublie de nous dire qu'il a un excédent commercial avec l'Europe dans les services. Services numériques, services financiers. Qui plus est, pour le consommateur, un grand nombre de services sont, entre guillemets, gratuits. Je pense en particulier aux services numériques. Eh bien, il y a une arme que l'Europe pourrait mobiliser, non pas pour l'utiliser, mais comme menace, c'est le fameux instrument anti-coercition.
Qui n'a jamais été utilisé.
Ce qui est normal, puisqu'il date de 2023. Mais ce que vous dit cet instrument, c'est que si vous utilisez le commerce pour régler d'autres problèmes, or Trump le dit lui-même, il dit « j'ai un problème avec l'Europe, c'est que vous voulez réguler les géants du numérique avec le DSA et le DMA, et le Digital Market Act. Baissez la garde sur cette régulation, et alors je serai plus clément sur le commerce. » Ça s'appelle clairement de la coercition. Eh bien, que vous dit cet instrument anti-coercition? L'Europe peut prendre toutes les mesures. J'ai bien dit toutes les mesures, y compris faire du sur-mesure. On pourrait imaginer dans la négociation l'Europe dire à Donald Trump, si dans 90 jours, vous maintenez les droits de douane sur les marchandises, alors nous sortirons l'arme anti-coercition et nous avons tout loisir de sélectionner les entreprises du numérique, par exemple pour les taxer. Il me semble que d'ailleurs la France est sur cette position, l'Europe également est en train d'évoluer. Je pense qu'on a une arme, on a des arguments pour, en tout cas, discuter d'égal à égal avec Donald Trump. Si on ne fait rien, à mon sens, on risque d'avoir de grosses déconvenues dans 90 jours. Les mêmes causes ayant les mêmes effets, le déficit commercial Europe-États-Unis persistant, Trump remettra les droits de douane.
Au-delà des droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis, vous alertez contre un risque, le report des flux commerciaux, c'est-à-dire la déferlante de produits chinois en Europe, puisqu'il va forcément falloir écouler cette surproduction.
Alors Stéphane, c'est même pas un risque, c'est une quasi-certitude. Toute la question est de savoir quelle sera l'ampleur de ce, entre guillemets, déversement vers l'Europe. Ce qui veut dire, et c'est peut-être d'ailleurs la stratégie de Trump, de se dire que l'Europe va se retourner contre la Chine et du coup va s'allier à Donald Trump. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Dans une autre tribune, je parle de croisade. Trump a une véritable croisade contre la Chine. L'Europe n'a pas une croisade contre la Chine, elle a un problème avec la Chine. Il ne faut pas oublier que l'Europe est très déficitaire avec la Chine. On a un déficit commercial à peu près de 270 milliards qui a quasiment triplé en 5 ans. Eh bien, il faut aussi discuter avec la Chine. La Chine, me semble-t-il, est sur une position un peu différente de Trump. Elle dit, prenons-la au mot, elle dit vouloir respecter les règles de l'OMC. Alors vous le savez, dans les règles de l'OMC, si vous subventionnez votre production, et la Chine subventionne sa production, si vous pratiquez le dumping, et parfois il semblerait que la Chine fasse du dumping, alors l'Europe serait fondée à se protéger. Donc je pense qu'on a des arguments au moins pour discuter. Puis vous savez Stéphane, ne pas discuter, c'est ce qu'on a comme autre alternative. Comme autre alternative, on a de toute façon la certitude que l'on va être inondé d'acier chinois et de produits chinois. Engageons la discussion et secondement, diversifions nos exportations.
Comment est-ce que la France peut négocier avec la Chine?
Alors déjà,
sous quelles conditions?
C'est pas la France qui va négocier, c'est une prérogative exclusive de l'Union
européenne.
Eh bien, je prends un exemple très concret, les véhicules électriques. On est dans un conflit assez dur, l'Europe voulant se protéger des subventions chinoises, les Chinois y ont rétorqué, notamment par le cognac. On pourrait tout à fait imaginer de dire à la Chine, on vous ouvre une certaine partie du marché européen en échange de transfert de technologie sous la forme
c'est
de...
C'est ce que la Chine nous a demandé pendant des années.
Mais exactement. Stéphane, comment la Chine est rentrée dans le secteur automobile en imposant aux Européens, et notamment à Volkswagen, des joint ventures sur le marché chinois? C'est important pour nos auditeurs, il faut sortir peut-être. On entend parfois cette idée que la Chine est un pays qui n'est pas en avance technologiquement. La Chine est en avance technologiquement, notamment dans les voitures électriques. Donc à nouveau, la solution c'est quoi? Si on ne fait rien, de toute façon, les Chinois vont ouvrir des usines tournevis. Entre une usine tournevis et une joint venture avec des transferts de technologie, je préfère encore la joint venture avec des transferts de technologie.
Vous êtes un fervent défenseur des règles de l'OMC. Est-ce que la Chine respecte réellement les règles de l'Organisation mondiale du commerce?
En tout cas, elle dit vouloir rester dans un système multilatéral. Prenons-la au mot. Alors, je vous rappelle, c'est très important, l'OMC autorise le protectionnisme. Dès lors que vous démontrez que votre partenaire subventionne sa production, dès lors que vous démontrez que votre partenaire se livre à du dumping. Puisque la Chine dit vouloir rester dans le cadre multilatéral, prenons-la au mot. En tout cas, il y a une certitude, c'est que Donald Trump a dit clairement qu'il ne voulait plus du système multilatéral.
C'est-à-dire que Donald Trump ne veut plus s'arrêter au feu rouge.
En clair, c'est exactement ça. Pour nos auditeurs, au fond, la Chine vous dit, on est tous d'accord sur le fait que quand le feu est rouge, on s'arrête. Par contre, on va discuter, je me suis arrêté au feu rouge, ce que conteste l'Europe. Donald Trump vous dit, de toute façon, feu rouge ou pas, je passerai. C'est pas tout à fait la même chose.
La guerre commerciale avec les États-Unis, les conséquences sur la Chine, est-ce que ça peut pousser l'Europe vers d'autres accords? Et je pense notamment avec les pays du Mercosur.
Alors vous connaissez ma position constante.
Là encore, vous êtes un fervent défenseur de cet accord.
Je suis un peu seul en France. Depuis le début, je pense qu'il faut absolument signer avec le Mercosur. Quand on regarde le gain, il y a eu des évaluations qui ont été faites sérieuses. Le gain global est positif pour l'Europe. Et notamment, on oublie de le dire, pour certains agriculteurs. C'est un peu facile de dire que c'est l'industrie contre l'agriculture. Lorsque vous êtes un producteur de fromage, lorsque vous êtes un producteur de vin, de spiritueux, et on ne parle pas de choses sans importance. Je vous rappelle que le troisième solde commercial de la France, après l'aéronautique, les cosmétiques, le luxe, c'est les vins et spiritueux. Eh bien, vous êtes plutôt content d'avoir accès au marché du Mercosur. Certes, il y aura des victimes, notamment...
Il faut les sacrifier ?
Non, il faut les dédommager. Vous aurez les producteurs de bœuf, les producteurs de sucre. On peut mettre en place un fonds de compensation, un fonds d'ajustement à la mondialisation. Mais quand on regarde le gain global, il est très nettement positif. Il y a le Mercosur, il y a d'autres accords qui pourraient être discutés. Hein, vous l'avez vu, l'Europe commence à aller vers l'Inde, à discuter avec l'Inde. Il y a également l'Indonésie.
Est-ce qu'il faut renforcer le CETA également avec le Canada?
Alors le CETA est déjà entré en vigueur. Ouais. Hein. Et quand on regarde le bilan, souvenez-vous les craintes sur le CETA. On nous parlait du bœuf aux hormones. Le bœuf aux hormones, c'est simple, il est interdit. Donc je pense qu'il faut continuer à négocier, à diversifier nos approvisionnements pour être moins dépendants des États-Unis.
Merci beaucoup Emmanuel Combes d'être venu ce matin sur Radio Classique, économiste, ancien directeur de l'autorité de la concurrence et professeur à la Schema Business School.
Et merci à tous les deux. La matinale de l'économie revient demain avec vous Stéphane dès 6h. Dans deux minutes, pas touche aux vacances d'été à l'Assemblée nationale, les coulisses de la politique de Marcelo Westfred. Avant cela, refaisons nos gammes avec Karine Dijou. Bonjour Karine.
Bonjour Marc.
Alors ce matin, les mots et expressions désignant le manque d'argent.
Oui. La première, c'est faire banqueroute. Mm-hmm. Faire banqueroute, c'est être face à une situation de faillite accompagnée d'infractions à la loi. Et ce mot vient de l'italien, cette fois-ci pas du latin, même si on n'est pas loin, bancarrota, qui signifie banc rompu. Pourquoi ? Parce que les financiers italiens s'installaient derrière une table de comptoir appelée banca. Mais si l'un d'entre eux faisait faillite, on cassait symboliquement son banc au cours d'une cérémonie humiliante pour montrer qu'il ne pouvait plus exercer d'activité financière.
Autre expression, être sur la paille.
Oui, cette expression désigne le fait d'être dans une grande pauvreté. Depuis le XIIIe siècle, la paille est considérée évidemment comme le déchet d'une culture, puisqu'il s'agit de la tige qui est dépouillée de son grain. Ainsi, coucher sur la paille, comme l'indique Furtière au XVIIe siècle, est la preuve d'un grand dénuement.
Avoir du mal à joindre les deux bouts.
De quel bout est-il question ici?
Oui.
Des bouts de chandelle peut-être? Eh bien non. Il s'agit des collerettes en dentelle, nommées fraises, que les nobles portaient autrefois. Plus la collerette était grande, plus on était riche. Certains achetaient de grandes fraises, mais ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour acheter une grande serviette qu'ils nourraient à table par-dessus leur collerette. Ils avaient donc du mal à joindre les deux bouts de cette serviette pour la nouer. C'est ainsi que cette expression, datant du XVIe siècle, désigne le manque d'argent.
Alors, puisqu'on en parlait à l'instant, faire des économies de bouts de chandelle, alors?
Oui, cette expression remonte au XVIIIe siècle, elle. Les domestiques des maisons bourgeoises récupéraient les bouts des chandelles non brûlées, et plus précisément le suif, c'est cette graisse animale fondue qu'on employait alors. Ce dernier était ensuite vendu à un cirier qui pouvait créer de nouvelles bougies. Les bourgeois méprisaient ceux qui recouraient à cette pratique de récupération qui était peu lucrative. Ainsi, l'expression « faire des économies de bout de chandelle » désigne des économies dérisoires par rapport à d'autres économies plus importantes qui pourraient être mises en place.
Merci beaucoup Karine, bonne journée et à demain.
À demain.
Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre métier ? Cegid innove pour élever la performance des entreprises et leur permettre de préparer l'avenir avec confiance. Chaque mercredi à 7h59 sur Radio Classique, retrouvez les dernières innovations pour la gestion d'entreprise avec Cegid et Fabrice Lundy.
Deuxième avis ?
Chut, tu fais quoi là ?
Je consulte les astres.
Ah bon ? En plein jour ?
Non, parce que le médecin vient de me dire de me faire opérer, mais bon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même.
Et du coup, ils disent quoi les astres ?
Bah d'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil.
Bon, ben, attendons.
Attendre des siècles pour obtenir un deuxième avis, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Vendre cet immeuble haussmannien pour payer les droits de succession, voilà ce que redoutaient Virginie et Sophie quand elles ont hérité de leur père. Heureusement, grâce au cabinet Bougardier, elles ont souscrit un prêt hypothécaire à long terme. Dans 15 ans, au moment de leur retraite, le prêt sera remboursé et elles percevront la totalité des loyers de l'immeuble. Comme pour Virginie et Sophie, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h25, les coulisses de la politique avec Marcelo Vesfred du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Marcelo.
Bonjour Marc.
Le Parlement est actuellement fermé pour la période des vacances de Pâques et il devrait l'être à nouveau cet été car le gouvernement n'est pas franchement emballé à l'idée de prolonger les débats en juillet. Expliquez-nous pourquoi Marcelo.
Oui Marc, tout devrait pourtant conduire l'exécutif à ouvrir le Parlement cet été pour avoir quelques semaines de plus. C'est ce qu'on appelle une session extraordinaire. La situation internationale, la défense, nos finances justifieraient de prolonger les débats, sans compter tous ces textes en souffrance. Il y a un paquet de propositions de loi portées par les députés ou les sénateurs qui attendent leur tour. Et dernière proposition de loi en date, l'audiovisuel public, elle devait être examinée la semaine dernière. Il n'y a pas eu le temps. Résultat, c'est reporté au calendrier grec. C'est ce qui fait que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, réclame une session extraordinaire. Mais ce n'est pas le choix du gouvernement.
Et il l'a dit aussi clairement, Marcelo ?
Alors, peut-être pas aussi clairement, mais hors micro, là, c'est beaucoup plus clair. Il laisse comprendre que le 30 juin, tout sera fini, sauf crise majeure. On ne va pas faire des lois pour faire des lois, explique un proche de François Bayrou. En réalité, Marc, la vraie raison, elle est plus pragmatique. Et je vous l'explique, le Premier ministre n'a pas de majorité pour lancer de grandes lois et il peut être renversé à n'importe quel moment. Alors, il cherche à éviter les turbulences. C'est donc une session extraordinaire, car figurez-vous, il y a une règle selon laquelle un député ne peut pas signer plus de 2 motions de censure par session. En ouvrant un nouveau cycle cet été, vous remettez le compteur à zéro et comme l'explique crûment un ministre, avec une session extraordinaire, vous remettez 2 balles dans le barillet de tous nos adversaires qui veulent nous buter. Et ce ministre ajoute taquin, ce n'est pas interdit d'être habile.
Mais du coup, le bilan de cette législature risque d'être maigre.
Ça, c'est une critique qui revient beaucoup, notamment dans la bouche d'Edouard Philippe. Je le cite, la période politique actuelle ne permet plus de grandes transformations jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Fin de citation. Et c'est difficile de lui donner tort. Le gouvernement ne propose plus de projet de loi et le Parlement ne s'est pas réuni en session extraordinaire, ni en septembre dernier, ni en janvier 2025. Et on vient de le voir, il ne le fera pas plus cet été. C'est comme si chacun attendait la présidentielle, que les cartes soient enfin rebattues.
Les coulisses de la politique, Marcelo Vesfred du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Bonne journée, Marcelo. Et bonjour Charles Bonner.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Et le temps est perturbé aujourd'hui.
Un vrai changement qui concerne tout le pays. Les pluies soutenues dans le sud-est avec des orages pluvieux également dans le nord et des rafales de vent dans le nord-ouest. Dans l'après-midi, la perturbation va bien s'installer. Les températures au milieu de la journée, 19 à Lille, 18 à Paris, 13 à La Rochelle, 12 à Toulouse et 17 à Marseille.
KPMG présente, grâce à nos ETI, Fabrice Lundy.
C'est la centième de « grâce à nos ETI ». Son père, Yvon, était à l'origine du concept d'ETI il y a une quinzaine d'années. Lui a dirigé le MEDEF. Pierre Gattaz est toujours à la tête de Radia, l'entreprise familiale d'Aubervilliers, créée il y a plus de 70 ans, qui vend dans le monde entier commutateurs, connecteurs, cordons optiques qu'on va retrouver dans le spatial, la défense, le médical. Pierre Gattaz.
Grâce à mon ETI, quand vous prenez l'avion, que ce soit un Airbus, Boeing, Bombardier, vous voyagez très simplement avec des composants électroniques fabriqués par Radial, des connecteurs coaxiaux ou optiques qui transfèrent de la puissance, donc de l'électrique. Il y a de plus en plus d'optiques dans les avions. Pareil, quand vous prenez un train et lorsque vous téléphonez, une énorme chance que vous passiez par des relais hertziens qui sont bourrés de connecteurs Radial aussi dans le monde entier. Voilà.
Pierre Gattaz à la tête de Radial et du château de Sannes dans le Luberon pour cette centième de grâce à nos ETI.
KPMG s'engage pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable grâce à sa présence dans tous les territoires. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 7h30, le journal avec Charles Bonner.
Avec à la une ce matin, une transformation menacée de fermeture. La centrale à charbon de Saint-Avold va se transformer en centrale à gaz. Un changement qui la sauve de la fermeture. Un comité d'alerte sur le budget. Le gouvernement veut présenter les grandes lignes des finances publiques pour préparer les esprits à un effort de 40 milliards d'euros. Et puis Israël propose une trêve à Gaza. 45 jours contre la libération de la moitié des otages. Le Hamas doit encore y répondre.
À suivre, des aides américaine au développement réduite à peau de chagrin, et c'est la Chine qui se frotte les mains. L'écho du monde de Nicolas Tenzer juste après ce journal. À la une, Charles, moins de CO2 pour autant d'énergie.
C'est l'avenir de la centrale de Saint-Avold en Moselle qui doit alimenter un tiers des foyers du Grand Est. Saint-Avold, c'est l'une des deux dernières centrales à charbon menacées de fermeture, mais qui va survivre grâce au passage au gaz, puis au biogaz. Les députés ont approuvé cette transformation. Et pour l'occasion, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, était sur place hier, Zoé Pallier.
Un ministre applaudit et des salariés souriants à l'entrée de la centrale.
C'est un très grand soulagement.
Joël travaille ici depuis 2015.
Moi, personnellement, j'avais un projet d'achat immobilier que j'ai traîné depuis un moment parce qu'on ne connaissait pas la conjoncture de la centrale. La loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, ça nous rassure énormément.
Car de cette centrale dépendent 500 emplois directs et indirects.
Je suis sous-traitant, je suis conducteur de travaux ici. Si ça avait fermé, nos 5 techniciens, on aurait dû les replacer dans d'autres usines. Malheureusement, en Moselle, on entend plus souvent parler de plan social que de création d'entreprise.
Les travaux de conversion coûteront 110 millions d'euros, précise Damien Kabitsa, chef d'équipe et délégué CFDT.
C'est essentiellement des travaux de chaudière, on va enlever les broyeurs, on va enlever le dépoussiéreur.
La centrale devait un temps se convertir à la biomasse, source d'énergie décarbonée finalement abandonnée au profit du gaz.
C'est une solution plus simple parce qu'une conversion biomasse, oui, c'est quelque chose qui va peut-être prendre 4-5 ans, alors que là, une fois que tout est OK, ça peut aller très très vite. 6 mois, c'est largement le temps qu'il nous faut pour pouvoir s'adapter à notre nouvel outil.
Les salariés, comme la direction, espèrent que les travaux commenceront avant 2027, mais il faut attendre un dernier feu vert de l'Union européenne.
Zoé Pallier. En politique, on parle de séquence, une manière d'alerter l'opinion sur un sujet. En l'occurrence, les finances publiques. Cela a commencé dimanche avec des interviews de ministres et ça continue ce matin à 9h avec une conférence sur les finances publiques présidée par François Bayrou. Un état des lieux des déficits et un rappel du besoin de trouver 40 milliards d'euros en 2026. Ministres, parlementaires, syndicats, organismes de sécurité sociale et élus locaux sont conviés, mais certains boycottent. C'est le cas de l'Association des maires de France, Muriel Fabre, sa secrétaire générale.
Nous, on nous a prévenus 3 jours avant, sans éléments, avec l'impression que tout était un petit peu joué d'avance. On a assisté et été très régulièrement conviés à de grandes réunions, au Conseil de la Refondation, au Comité aux Finances Locales, etc., etc. Donc, ça prend à chaque fois un autre nom, mais ça en reste finalement très vertical. Et on a l'impression de n'être que des pions ou des supplétifs de l'État, c'est-à-dire d'être là pour faire à la place d'eux, sans avoir l'impression d'être véritablement concertés. Aujourd'hui, la situation de l'État, on le sait, est catastrophique d'un point de vue de la dette et d'un point de vue de la dépense. France Publique. Et là, on est encore une fois dans une action de communication très très forte. Je pense qu'aujourd'hui, les vraiment nécessaire de changer de cap et de changer de méthode.
Muriel Fabre, jointe par Lauriane Toulmont. Hier, la Cour des comptes publie un rapport sur les pistes d'économie de l'assurance maladie. 20 milliards d'euros au total. Le rapport évoque une meilleure lutte contre la fraude, surtout celle des professionnels de santé, une dématérialisation des échanges et le transfert des dépenses vers les mutuelles.
7h34 sur Radio Classique. Israël propose un accord de cessez-le-feu à Gaza.
Une proposition transmise à l'Égypte qu'il a ensuite transférée au Hamas. Un accord de trêve que le Hamas n'a pas encore accepté, puisqu'il y a un point que le mouvement considère comme non négociable, que le Sénat.
Le gouvernement israélien propose un cessez-le-feu temporaire avec une grande condition, le désarmement du Hamas et de tous les groupes armés palestiniens à Gaza. Une ligne rouge non négociable, selon un responsable du mouvement islamiste palestinien. La proposition israélienne devrait prévoir la libération de la moitié des otages dans la première semaine après l'accord. En échange, un cessez-le-feu d'au moins 45 jours et l'entrée d'aide dans le territoire palestinien. La direction du Hamas a indiqué étudier la proposition et présentera sa réponse dès que les consultations nécessaires seront terminées. Depuis le 18 mars, c'est la reprise des opérations militaires dans la bande de Gaza. Des centaines de milliers d'habitants ont à nouveau été déplacés sur le territoire et Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire depuis le début du mois de mars. La situation humanitaire est maintenant probablement la pire depuis le début des hostilités il y a 18 mois, alerte le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU.
Chloé Sénard, Volodymyr Zelensky. Zelensky répond à Donald Trump. L'Ukraine n'a jamais souhaité cette guerre. Réponse aux propos du président américain qui a estimé hier que l'Ukraine n'aurait pas dû commencer une guerre contre quelqu'un 20 fois plus grand que lui. Référence à la Russie responsable de la mort d'au moins 35 personnes, a soumis en Ukraine dans une frappe dimanche qui illustre la volonté russe de renforcer le conflit, Lucie Dupressoir.
Volodymyr Zelensky le répète depuis le mois de février. La Russie prépare une nouvelle offensive pour le printemps dans les régions de Soumy et Kharkiv. Selon le général Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, toutes les conditions sont effectivement réunies pour qu'il y ait une pression militaire russe très forte dans les prochaines semaines.
On sort de l'hiver, donc les conditions météo sont moins contraignantes. Le printemps a toujours été, dans l'histoire de l'humanité, le moment où on commence les offensives. Et il y a aussi le fait que l'industrie d'armement russe tourne à plein régime et fournit des chars, des missiles.
Depuis le 1er avril, la Russie procède aussi à sa plus grande campagne de recrutement militaire jamais organisée. Jusqu'au 15 juillet, 160 000 hommes vont rejoindre les rangs de l'armée, ce qui laisse penser que les combats vont encore durer, estime Jérôme Pélistrandi.
Quoi qu'il arrive, Vladimir Poutine est dans cette logique de vouloir obtenir à tout prix une capitulation de l'Ukraine, qui n'a pas perdu la guerre, contrairement à ce qu'affirme Moscou.
Selon le général, la Russie pourrait profiter du 9 mai, date anniversaire de sa victoire sur l'Allemagne nazie, pour procéder à une démonstration de force.
Lucie Dupressoir, c'est l'un des symboles de la guerre culturelle que mène Donald Trump, l'université de Harvard. Le président américain réclamait la fin des programmes de diversité et des changements dans les programmes. L'université a refusé hier et dans la foulée, l'administration américaine a gelé 2 milliards de subventions.
Des trains de colère en direction de Paris, Charles.
Usagers et élus locaux à bord de deux lignes, Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, en colère contre les retards, les pannes, les suppressions, et ce malgré les travaux en cours depuis 2018. Gilles Danzard est spécialiste des transports ferroviaires du site Mobilettre, et pour lui, les travaux ne régleront pas le problème.
Ce n'est pas l'infrastructure qui est responsable de la majorité des retards, des suppressions de trains, etc. L'essentiel des irrégularités est lié à des problèmes d'exploitation, c'est-à-dire de matériel roulant qui tombe en panne ou qui est indisponible ou d'absence de conducteur, etc. Donc les travaux vont résoudre une partie des problèmes, entre 25 et 30% des irrégularités, mais ça n'est qu'une petite partie du problème. La solution consiste à ce que l'État actionnaire de la SNCF lui demande d'assurer un service à la hauteur de ce que demandent les voyageurs.
Un propos recueilli par Marine Salaville. Et puis c'est le premier de la saison des festivals. Le Printemps de Bourges commence aujourd'hui et au programme ce soir, 21h, le retour de Michel Polnareff, éternel lunettes blanches sur le visage, pour présenter à 80 ans son dernier album, Un temps pour elle, elle au pluriel, avant de partir en tournée.
Et nous serons dans un autre festival d'ici 9h dans cette matinale, le festival de Pâques à Aix-en-Provence avec Laure Maison pour faire le point sur le programme et les concerts diffusés en direct chaque soir sur l'antenne de Radio Classique. Merci Charles. Les États-Unis coupent le robinet des aides au développement et c'est une mauvaise nouvelle pour la planète, nous raconte Nicolas Tenzer dans son Écho du Monde. 7h38 sur Radio Classique.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Waouh ! Pour la troisième fois consécutive, vous avez choisi Action comme enseigne préférée des Français. Merci pour votre confiance et à bientôt dans nos magasins. Action, petit prix, grand sourire.
Madame Figaro, spécial déco est en kiosque. On s'évade et on prend la direction de Minorque ou encore du Brésil pour des escapades dans des maisons de rêve. Partez à la rencontre des jeunes designers français qui comptent et toujours toutes les nouveautés et les tendances du moment. Madame Figaro, spécial déco, en vente actuellement.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
L'année dernière, Amazon était le premier acheteur privé d'énergie renouvelable au monde. Ça veut dire que de plus en plus d'énergie provient de parcs éoliens comme celui-ci.
Les gars, on devrait pas plutôt enregistrer au parc solaire?
Pour en savoir plus, rendez-vous sur eventamazon.fr/notreplanète.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h40, l'écho du monde avec Nicolas Tenzer. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marc.
Ukraine, Iran, Gaza, la politique étrangère de Donald Trump donne peu de résultats tangibles pour l'instant. Mais il est un domaine où les convictions de Trump semblent bien affirmées et porteuses d'effets à moyen long terme, Nicolas. C'est celui de l'aide au développement.
En effet, la suspension prélude à l'annulation des crédits d'aide au développement auront des conséquences structurelles et inquiétantes. Selon les statistiques de l'OCDE, l'aide publique au développement américaine était de 64,7 milliards de dollars en 2023, soit 29% de l'aide mondiale. Cette aide, notamment pour les situations d'urgence, famine, désastres naturels, guerre, est vitale. S'y ajoute l'aide pour l'agriculture, la lutte contre le sida, la santé maternelle et infantile, l'assainissement de l'eau, l'éducation, etc. Dans certains pays, elle représente 50% de l'aide totale et globalement, en Afrique, 35%. L'America First de Trump devient en fait une America alone. On se rappelle aussi que Washington s'est retiré de l'Organisation mondiale de la santé et on attend son départ d'autres organisations ou des coupes drastiques des crédits qui leur sont alloués. Cet abandon intervient à un moment où plusieurs pays, notamment pays pauvres d'Afrique, devront faire face à des droits de douane de plus de 50% alors qu'un accord commercial de 2000, l'AGOA, qui permettait à plusieurs pays africains d'exporter vers les États-Unis sans droits de douane, ne devrait pas être renouvelé.
Une telle politique aurait aussi des effets politiques.
Oui, car elle favorisera la Chine sur plusieurs plans. D'abord, celle-ci a augmenté son empreinte, autant en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient. Elle aura carte blanche pour accroître encore sa politique d'investissement et d'aide. Intéressée, tous azimuts. L'aide chinoise est loin de respecter les bonnes pratiques mises en avant par les organisations internationales en termes de lutte contre la corruption, de développement durable et d'inclusion des populations. Ensuite, l'aide au développement a été pour les États-Unis, comme pour l'Europe, un outil de soft power, c'est-à-dire d'influence culturelle, intellectuelle et politique. Mmh. Pétain aurait encore plus les mains libres pour influencer certains pays lors des négociations internationales ou des votes à l'Assemblée générale des Nations Unies.
États-Unis. Elle imprimerait également davantage encore sa marque dans les organisations internationales où son influence est déjà forte, notamment l'OMS et la FAO, poussant ses propres intérêts politiques et normatifs. Cette décision américaine est à mettre en parallèle avec la coupure des financements aux think tanks, ONG et universités à l'étranger, aidant les dissidents et médias dans des régimes oppressifs à défendre la liberté et les droits de l'homme, ce qui n'est pas la préoccupation de Trump, au contraire.
Les autres pays démocratiques peuvent-ils réagir ?
Oui, mais cela va les obliger à eux-mêmes renforcer leur aide, alors que la tendance des dernières années était plutôt à la baisse. Globalement, l'Union européenne en tant que telle, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la France, totalisaient 117 milliards d'aides au développement, soit près du double des États-Unis. Mais ils devront pallier le retrait américain s'ils ne souhaitent pas que la Chine, les Émirats arabes unis, la Turquie et d'autres prennent cette place laissée vacante. C'est un enjeu de solidarité, mais aussi leur intérêt bien compris. N'oublions pas que l'Afrique, en 2100, représentera 3,8 milliards d'habitants, soit plus d'un quart de la population mondiale. On imagine les conséquences pour l'Europe d'une non-maîtrise de son développement, y compris en termes de migration non contrôlée et de terrorisme qui alimente déjà les fantasmes, sans parler des matériaux critiques dont l'Europe ne saurait souhaiter qu'ils soient préemptés par d'autres. Une non-solidarité a aussi un coût politique, comme on le voit avec le peu de convergence de certains pays du Sud avec les démocraties lors de la guerre en Ukraine. L'Europe puissance a une dimension militaire, économique et technologique, mais aussi de développement. Prenons-en conscience aujourd'hui.
L'écho du monde avec Nicolas Tenzer, comme chaque matin cette semaine. À demain, Nicolas, bonne journée. Dans un instant, Augustin Lefebvre nous emmène en Allemagne cette fois-ci. Les petits Français désertent la langue de Goethe. Cela valait bien un journal imprévisible. Radio Classique, 7h44.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence, et qu'elle est à partir de 170 euros par mois, et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500 euros pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril si acceptation crédit part. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, job fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
Aesio Mutuel présente.
Oh, salut Thermos, ça va? On profite de la retraite?
Ah, t'as pas idée, je passe mes journées au bain chaud.
Bah oui, t'as l'air changé, t'es beaucoup plus rouge-violet. C'est nouveau les cloques?
Mais quoi?
T'as une bonne mutuelle, rassure-moi.
Non, je t'ai dit que j'étais à la retraite. Pourquoi?
Non, pour rien.
Ne pas avoir de mutuelle quand on est à la retraite, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, c'est s'assurer d'une continuité dans sa couverture santé tout au long de sa vie. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin.
Guten Morgen Markus.
Guten Morgen. L'apprentissage de l'allemand à l'école ne cesse de reculer. Vous revenez ce matin sur le parcours de cette minorité d'irréductibles qui résiste à l'espagnol, les germanistes.
Et oui, dans l'article cité par Hervé Gattegno dans sa revue de presse, une enseignante parlait de 3 associations négatives avec l'allemand chez les élèves et leurs parents. Ça ne sert à rien, c'est moche, et enfin, inévitablement, Hitler, un argument du niveau d'OSS 117.
Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association.
Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur.
Oui, je connais cette théorie, oui.
L'allemand serait une langue martiale qui rendrait même une recette de soufflé malveillante.
Ein Liter Milch. Drei Eier. 90 Gramm Butter. Salz. Und. Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller.
Louis de Funès qui a un peu desservi la langue allemande aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Il faut voir les images sur lesquelles les ombres font une moustache et une mèche qui rappellent des mauvais souvenirs. Sur les réseaux sociaux, eh bien le procédé est le même aujourd'hui. On insiste sur les sonorités gutturales de la langue. Exemple de comparaison entre le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Presque 1 million de vues.
Papillon.
Butterfly.
Farfalla.
Mariposa.
Schmetterling.
Ambulance.
Ambulance.
Ambulanza.
Ambulancia.
Krankenwagen.
Wir reiten zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit Feind.
On pourrait y ajouter un dernier cliché, l'allemand serait une langue difficile. Il faut donc dépasser ces idées reçues que n'ont pas les autres langues pour choisir celle de Goethe. Et les germanistes se retrouvent donc souvent en petit comité.
Guten Morgen, und wie geht es dir?
Au moins, tout le monde participe. Ceci n'est pas un cours particulier. Ces 5 élèves sont les seuls du collège à avoir choisi l'allemand comme première langue en 6e.
Et à l'heure où l'anglais domine, eh bien le reste de la classe a fait un autre choix ensuite.
Voici le reste de la classe, 22 élèves qui ont choisi l'anglais en première langue, sûrs d'avoir fait le bon choix.
L'anglais, je trouve ça plus beau que l'allemand. Et ouais, parce que c'est une langue assez parlée dans le monde. Et l'anglais, je trouve que c'est plus facile.
Dans cette classe, seulement 4 élèves devraient s'inscrire en allemand en 4e. Tous les autres penchent plutôt pour l'espagnol.
Et oui, l'espagnol. Hein,
4 grand élèves rival, seulement en allemand.
4 élèves sur 22.
Ouais.
Grand rival de l'allemand, hein, l'espagnol au moment du choix de la LV2. Mmh. Ça oblige les professeurs à la surenchère, comme la promesse de voyage. Et dès l'après-guerre, les échanges se sont développés pour sceller la réconciliation.
La ville de Vesoul a reçu, pour une période d'un mois, de jeunes lycéens de Francfort-sur-le-Main, désireux de connaître notre beau pays. Guten Tag, Karl, wie geht's? Bonjour, William, et bon séjour à Vesoul. Et après ces civilités, les écoliers et lycéens de Vesoul prirent un car frété spécialement en direction de Francfort am Main. Oui, les États-Unis d'Europe sont en bonne voie.
Il y a parfois des coups de pouce inattendus. Les professeurs d'allemand se souviennent avec émotion du milieu des années 2000.
Un phénomène maintenant qui enflamme les adolescents au point que certains décident même de prendre des cours d'allemand. Il s'agit d'un groupe de rock venu d'Outre-Rhin, Tokyo Hotel.
Mais oui, évidemment. Tokyo Hotel, vous avez connu Marc?
Lointain.
Quatre jeunes garçons aux cheveux longs qui chantent le malaise adolescent en allemand.
Ils ont entre 18 et 20 ans. Originaire de Magdebourg en ex-Allemagne de l'Est.
Guten Morgen.
Un phénomène. Ils ont fait aimer l'allemand à plein de petits Français. Le jour de la rentrée, le professeur pose une question.
Pourquoi as-tu choisi l'allemand? Et souvent, ils écrivent parce que je connais Tokyo Hotel.
On va essayer de voir les paroles pour comprendre un peu les textes.
L'allemand pour comprendre Tokyo Hotel, Nena ou les leaders de Schubert, oui. Chacun choisira. Mais aussi pour se démarquer sur le marché du travail. Quand l'allemand est la langue la plus parlée d'Europe avec 100 millions de locuteurs natifs, il vaut mieux soigner son accent, n'est-ce pas François Hollande?
Hier camarade, ich bin sûr, wir gewinnen zusammen.
Wunderbar.
Wunderbar, François Hollande qui se dit donc sûr de gagner avec ses alliés du SPD. Il avait choisi un premier ministre germanophone, Jean-Marc Ayrault.
Ja, das, ich glaube, wir haben kein Modell zu suchen. Wir haben in uns die besten Werte, die besten Ideen, die wir entwickeln müssen.
Pas de modèle à suivre. Hein,
ah oui, c'est un autre
Ayrault.
Modèle. Oui.
Les idées sont à l'intérieur. Bon, Jean-Marc Ayrault, il faut dire que c'était un ancien professeur d'allemand. Citez-moi un exemple de professeur d'espagnol à ce niveau de l'État. Emmanuel Valls, ça ne compte pas. Outre-Rhin, l'apprentissage du français a rebondi ces dernières années, mais il est globalement confronté au même problème, remplacer un groupe pour ados par un autre.
Et la musique, moi j'entends toujours Section d'Assaut, et c'est génial.
Et pourtant cela ne suffit pas, c'est la prof de français qui le confirme.
Non, le français n'est pas une langue à la mode, malheureusement pas. Les jeunes pensent que l'espagnol est beaucoup plus présent dans la musique populaire.
Alors s'il faut un dernier argument, souvenez-vous que des études d'allemand peuvent aussi vous mener à une carrière de chanteuse internationale dans la musique populaire. Justement, ce fut le cas de Françoise Hardy.
Oui,
bon, il n'y a peut-être aucun lien entre les deux, mais on ne résiste pas. Danke schön und bis morgen, Markus.
Ratlos und perplex, nur dachte ich,
Augustin Lefebvre, sans aucun complexe, avec son journal imprévisible. Augustin, que l'on retrouve à 8h30 pour la revue de presse. Dans un instant, avis de gros temps à la SNCF sur les ponts du mois de mai, le décryptage écho de David Barrault. Radio Classique, 7h53.
Cuisine Ixina présente son offre jusqu'à 100% de la pause offerte.
Ah ça c'est bien.
Profitez-en dès maintenant.
Maintenant parce que là on est en train de préparer un rôti.
T'embête pas, on prend le rôti avec nous.
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur ixina.fr. Ixina.
À ce stade de la compétition, tout peut arriver. Le parcours d'une équipe peut devenir une épopée. Une rencontre, un classique. Un joueur, une icône. Cette saison, l'histoire du football s'écrit sur les chaînes Canal+. Suivez les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League avec les chocs Aston Villa Paris SG ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Arsenal demain à 21h sur Canal Plus. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu deux paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8€ offerts en bon d'achat tous les 20€ d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès vendredi et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valables du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et le décryptage écho avec David Barrault à 7h54. Bonjour David.
Bonjour Marc.
Les grèves à la SNCF sont bien parties pour gâcher les ponts du mois de mai.
Alors pour l'instant, rien n'est sûr, mais ce qui est quand même déjà certain, c'est que la pression monte et que les syndicats de la SNCF sont en train, si j'ose, de faire tout ce qu'ils peuvent pour être sûr de nous faire préférer la voiture. Les beaux jours sont là et effectivement la CGT, Sudrail et les collectifs de contrôleurs se sont donné le mot pour compliquer les allers-retours du deuxième week-end de mai, puisque la CGT appelle à la grève à partir du lundi 5 mai, Sud du vendredi 9 au dimanche 11, et les contrôleurs se sont intelligemment calés entre les deux le 7. Les négociations avec la direction peuvent encore aboutir, mais dans le doute, pas mal de Français vont sans doute commencer à envisager d'autres options en matière de transport.
Pourquoi les syndicats se mettent en grève, David?
Déjà parce qu'ils le peuvent, ils ont un vrai pouvoir de nuisance. Quand Radio France se met en grève, les auditeurs basculent sans problème tous sur Radio Classique, et la grève est contre-productive. Dans le ferroviaire, c'est comme les contrôleurs aériens, c'est très pénalisant pour les usagers. Il y a peut-être aussi un côté politique. Le gouvernement n'arrête pas de prendre son temps pour choisir un successeur au PDG actuel, Jean-Pierre Farandou, qui doit partir. C'est une manière pour les syndicats de montrer leurs muscles. Mais officiellement, ils se mettent en grève pour défendre leurs conditions de travail, côté Zola, mais surtout leur pouvoir d'achat. Ils veulent des sous.
Et est-ce que leurs demandes sont justifiées?
Eh ben non, totalement injustifiées, et cela pour trois raisons au moins. La première, c'est que pour la quatrième année consécutive, les augmentations prévues par notre champion du rail seront a priori en moyenne plus élevées que l'inflation. On parle de 2,2% contre 1,5% prévu par la Banque de France pour les prix. La deuxième raison, c'est que la SNCF est un groupe qui embauche, qui fait plus que compenser tous les départs naturels. Et chez eux, les bas salaires comme le SMIC augmentent quand même de 10%, ce qui est déjà pas mal. Et puis, dernière raison, les syndicats de la SNCF vivent sur le mythe entretenu par la direction du groupe d'une SNCF qui serait rentable, qui ferait plus d'1,5 milliard de bénéfices. Alors sur le papier, c'est vrai. Et d'ailleurs, les cheminots ont déjà droit à un intéressement qui va de 650 à 1300 euros selon les jobs, ce qui n'est pas rien. Mais si la SNCF affiche des bénéfices, c'est parce que les Français aiment le train, parce que le groupe a fait des efforts en matière de gestion, on ne va pas le nier, mais c'est surtout parce que comme dans tous les pays qui défendent le ferroviaire, le train bénéficie tous les ans de dizaines de milliards de subventions et de soutiens payés par les impôts et les taxes sur les entreprises. Les cheminots méritent d'être bien payés, c'est sûr. Pas forcément d'être beaucoup mieux payés, car ils le sont déjà, et ce sont les Français qui payent une bonne partie de la facture. Et eux ne seront pas tous augmentés cette année, il me semble.
Le décryptage écho de David Barrault. Bonne journée David, et à demain.
À demain.
7h57, juste le temps de retrouver Franck Ferrand et son point du jour.
Bonjour Franck.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Alors en quel 15 avril êtes-vous ce matin ?
Je vous emmène le 15 avril 1874. Ce jour-là, une trentaine de peintres exposent leurs toiles dans l'atelier de leur ami, le photographe Félix Tournachon, qu'on appelle Nadar, évidemment. Je vous en avais parlé, rappelez-vous, l'année dernière, parce que c'était le 150e anniversaire. C'est la première expo impressionniste. Les impressionnistes ont une façon de peindre bien à eux. Vous savez que Monet résume dans cette formule « Je peins ce que je vois et non ce qu'il plaît aux autres de voir ». Bon, alors, c'est un critique d'art, Louis Leroy, qui veut ridiculiser ses peintures qu'il trouve tout simplement grotesques. Et c'est lui qui dit « Impression, impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. » Et il parle un peu plus loin, trois lignes plus loin, des impressionnistes. Il croyait définitivement les accabler de cette façon. Ben, en fait, le terme va rester. Et c'est à l'occasion d'une deuxième exposition en mars 76 que Gustave Caillebotte exposera ses raboteurs de parquet. Voici les mots du critique Albert Wolff à propos de cette deuxième exposition. On vient découvrir chez Durand-Ruel, parce que la deuxième était chez Durand-Ruel, une exposition qu'on dit être de peinture. 5 ou 6 aliénés, dont une femme, c'est Berthe Morisot. Ces soi-disant artistes s'intitulent les intransigeants, les impressionnistes. Ils prennent des brosses, jettent au hasard quelques tons et signe le tout. Faites donc comprendre à Monsieur Pissarro que les arbres ne sont pas violets et que le ciel n'est pas d'un ton beurre frais. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? On peut être critique d'art et passer à côté d'une grande révolution artistique.
Le 15 avril 1874, la date que vous avez retenue ce matin. Merci beaucoup Franck, et à tout à l'heure, 9h. La météo, Virginie Fulpin. Faisons simple ce matin, beaucoup de pluie.
Averses et orages dans le sud ce matin, pluie dans les Hauts-de-France et en Normandie. Allez, quelques petites éclaircies feront leur apparition dans la moitié nord cet après-midi. Les températures ce matin entre 8 degrés à Brest et 16 en Corse, il fait 11 à Nantes, 13 à Paris.